Radio Enco.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. 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 Différence.
Radio Enco.
Bonjour à toutes et à toutes, vous écoutez Radio Enco, le podcast qui fait la différence. Christian au micro, accompagné aujourd'hui par Thierry. Bonjour Thierry.
Bonjour Christian.
Et par Sébastien.
Salut.
Et bien sûr, nous avons avec nous, comme toujours, Adrien aux manettes. Aujourd'hui, nous recevons Raphaël, qui est graphiste et vidéaste, qui a réalisé la plaquette de Café Enco et qui est venu nous rendre visite. Il nous expliquera pourquoi dans la seconde partie de ce podcast. Bonjour à toi, Raphaël. Tout d'abord, peux-tu te présenter en quelques mots?
Bonjour. Alors moi, je suis Raphaël. Donc, comme tu dis, je suis graphiste et vidéaste. Tu vois, c'est pas facile à dire, en vrai. Donc ça, c'est mon métier. En quoi ça consiste? Eh ben, je produis en fait des contenus multimédia pour les gens qui ont besoin de communiquer. Donc ça peut être une affiche ou un flyer, une plaquette, comme par exemple pour le Café Enco. Je peux aussi faire de la prise de vue vidéo, donc audio et images animées, pour faire des montages vidéo. Et après, je peux aussi assembler tout ça dans un site internet qui va nous permettre de regrouper à la fois du texte, à la fois des images et à la fois des contenus multimédia vidéo. Voilà.
Thierry?
Tout à fait. Merci beaucoup. Notre invité est charmant. Hein? Quelles sont tes activités en ce moment, s'il te plaît?
Alors, en ce moment, je travaille sur le site de l'association Conviventia.
Oui.
Donc, on organise notamment un festival de musique du monde qui est sur le canal du Midi, donc à la particularité d'être itinérant sur une péniche.
Oui,
voilà, donc
tout
ça
à fait.
Très longtemps que je travaille avec eux, plusieurs années que je travaille avec eux.
Mm-hmm.
Et donc cette année, on refait le site internet et on a un objectif, et c'est pour ça que j'étais là aujourd'hui, on a un objectif assez pointu sur l'accessibilité du site pour
c'est très bien.
Les différentes situations de handicap.
C'est bien.
Voilà.
Merci.
Eh bien, c'est normal. Alors, pourquoi on venait ici? L'idée, c'était de faire tester le site en direct et puis me permettre à moi et aussi à Marie-Pierre qui travaille à l'association de pouvoir échanger avec des gens. Donc, on a fait des tests de navigation sur le site avec une liseuse, donc avec Christian.
Oui.
Et après, donc moi, je n'ai pas forcément tout suivi, mais après, il y a différents gens qui sont venus et qui ont testé. On leur a demandé si c'était lisible, est-ce qu'ils arrivaient à se promener sur le site, est-ce qu'il n'y avait pas des trucs qui les dérangeaient, parce que ça peut être visuellement, en termes de comment le site y charge, comment il s'affiche, est-ce que c'est trop petit, est-ce que c'est agressif, est-ce que les couleurs ne sont pas lisibles, etc.
Oui.
etc. Voilà. Est-ce que c'est pas clair, comment c'est écrit aussi. Enfin, oui. on a travaillé sur beaucoup d'aspects, en fait.
Mm-hmm.
On s'est appuyé sur les normes en fait, internationales qui sont posées là-dessus, parce qu'il y a un gros travail qui est fait par le consortium web sur rendre le web le plus accessible possible.
Oui.
Et là, c'était un peu le test, le crash test, comme quand on a fini une voiture, on dit bon, maintenant on l'envoie dans le mur, on voit si ça tient. Donc là, c'était ça.
Ouais.
Et on est plutôt content du résultat parce que y a forcément, on peut toujours améliorer. Il y a plein de petites choses à régler, à peaufiner. Mais déjà, globalement, le site, il est aujourd'hui utilisable par tout le monde, en fait. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Et il va être mis en ligne, là, dans une semaine ou deux. On va l'ouvrir au public pour qu'on puisse se renseigner sur l'assaut et prochainement prendre des informations sur le contenu, la programmation du prochain festival.
J'ai une petite question pour toi, hein, si tu peux me le permettre. Je voulais te demander, tu nous as dit que tu utilisais toi-même l'intelligence artificielle.
Ouais.
Et je voulais te demander en quoi cela consistait et pourquoi éventuellement cela pourrait être intéressant pour nous.
Alors, pourquoi je m'en sers? Parce que là, ça fait quelques mois qu'on commence à pas mal en parler au niveau grand public. J'imagine que tout le monde autour de la table a déjà entendu au moins un sujet à la radio
ou
truc à la télé là-dessus. Concrètement, sur mon secteur d'activité, il y a beaucoup d'utilisations possibles.
Oui.
Et là, pour l'instant, je suis à une étape de curiosité. C'est-à-dire que en fait, là, je m'y suis mis, ça fait 2 semaines là. Je commence à m'en servir. J'avais identifié vraiment des tâches particulières sur lesquelles je pouvais me faire aider par une intelligence artificielle. Du coup, j'ai essayé. Donc là, je suis vraiment à une phase expérimentale.
Un test.
Ouais, c'est ça. Donc, sur des choses vraiment purement binaire de type, par exemple sur le projet Convivencia, programmation de site internet, codage de site internet, quand je vais me retrouver face à des erreurs ou des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, je vais pouvoir converser avec une intelligence artificielle, lui expliquer de quoi j'ai besoin, lui expliquer là où j'en suis, et elle va pouvoir m'aider à terminer.
D'accord.
Est-ce que tu penses que ça peut te faire gagner du temps dans ton travail ?
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est concrètement aujourd'hui pour moi, le premier truc que je constate, c'est que ça me fait gagner du temps. Du temps qui, des fois, quand tu commences à faire une recherche sur un sujet, si en plus tu ne maîtrises pas très bien, parce que coder un site internet, il y a des choses qu'on a l'habitude de faire, des choses qu'on a moins l'habitude de faire. Il y a des choses qu'on n'a jamais fait, qu'on sait que ça existe, mais on ne l'a jamais fait. Du coup, des fois, ça peut te prendre de 1 à 5 heures pour assimiler la chose. Là, tu te retrouves dans une situation où potentiellement, tu n'auras même pas forcément besoin de vraiment assimiler la chose. Tu vas pouvoir te retrouver à te faire servir sur un plateau le truc. Et puis peut-être, à force de te le faire servir sur un plateau, et si tu prends quand même le temps de faire fonctionner ton intelligence à toi, tu vas acquérir des nouvelles compétences. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, tu vas gagner du temps et tu vas pouvoir être productif. Donc on est vraiment sur des notions de productivité. Voilà, donc je l'ai testé sur ça, où j'ai eu des résultats concluants. Après, je l'ai testé pour me faire des résumés de texte aussi, parce que des fois, on m'envoie des textes qui sont trop longs par rapport à ce que j'ai à faire. Donc je lui donne le texte, je lui demande de me le résumer. Et comme ça, j'ai plus qu'à le relire pour voir si ça me convient. Donc pareil, ça me fait gagner du temps, c'est de la productivité. C'est pas mal, parce que c'est vrai que des fois, quand on fait pas mal de trucs en même temps, moi je suis graphiste, hein, donc je travaille beaucoup sur la mise en page, on va dire, sur un site internet. Quand je dois du coup m'arrêter, prendre un texte sur un sujet que je ne maîtrise pas forcément, le lire et rechoisir des termes pour pas déformer, bien le remettre et tout, bah, du coup je deviens rédacteur, ce qui n'est pas forcément mon métier. Bon, même si forcément j'ai quand même l'habitude de le faire, parce que c'est souvent que j'ai des textes trop grands par rapport à là où je dois les faire rentrer. En tout cas, ouais, concrètement, ça fait gagner du temps. En gros, on fait une vérification, et puis si ça nous va, ça part dans la maquette. Et je l'ai aussi testé sur la génération d'images. Donc, en gros, c'est une intelligence artificielle à laquelle on décrit une image et il nous dessine l'image.
Et ça fonctionne vraiment ? Ça m'intrigue en tant qu'aveugle, cette histoire-là.
Ouais, ça fonctionne, c'est assez bluffant. Alors, ça reste une intelligence artificielle, donc ce n'est pas un humain, ce ne sera jamais un humain, donc il ne sait pas vraiment ce que c'est un humain. Donc quand tu lui demandes de te faire un humain, là, il y a des bugs graphiques du genre les mains, des fois il y a 7 doigts, des fois c'est 3 mains mélangées, donc ça c'est un peu crado. Mais bon, vu que moi je suis graphiste, je peux faire une image, lui demander de me faire des variations et des itérations de cette image-là, et ensuite aller récupérer les endroits buggés et remplacer par une main qui va bien et en faisant de la retouche classique à partir d'images générées par ordinateur, avoir une image qui est complètement nickel pour l'utilisation. Quoi. Donc là, la semaine dernière, j'ai fait un visuel avec une photo de 5 personnes, une photo de famille. Un peu, c'était quelque chose que je ne pouvais pas trouver, que je n'avais pas le temps et le client n'avait pas les moyens qu'on fasse un shooting photo. Et du coup, on l'a fait comme ça et le résultat, il est. Enfin, si je ne dis pas aux gens que c'est une intelligence artificielle qui a créé la photo, personne ne sait que ce n'est pas une photo. En gros, les gens qui sont sur la photo, ils n'existent pas. Les habits qu'ils portent, c'est des habits qui n'existent pas non plus.
Alors, dis-moi, j'ai une autre petite question. Et, le pourcentage, éventuellement, des gens qui pourraient utiliser cela, tu dirais éventuellement que ça s'évaluerait à quel pourcentage ?
Alors là, aujourd'hui, c'est déjà très accessible. À partir du moment où tu vas pouvoir taper au clavier, où tu vas avoir une interface de type dictaphone qui va te permettre de rédiger sur un ordinateur, tu vas pouvoir déjà commencer à travailler avec une IA.
C'est-à-dire 10%
de la population. Je pense qu'on est à plus de 80%.
Waouh ! Est-ce que c'est pire qu'un robot ?
C'est un robot. Après, ce n'est pas un robot physique.
C'est un robot...
C'est un robot mental.
Mais est-ce qu'elle mental, va quand même dans virtuel. Un... Pardon.
Oui.
Et pardon. Intellectuel.
Alors, oui, après, c'est appelé intelligence artificielle. C'est pas vraiment. Enfin, c'est intelligence en lettres, si tu veux, il n'a pas de conscience, etc. Donc, il y a une forme d'intelligence. En gros, si tu veux, c'est un programme qui a accumulé des données et qui les a synthétisées, qui les a comprises à sa manière. Parce qu'il va quand même, des fois, te dire des conneries. Hein. se tromper. Tu vas, alors, vu que tu peux discuter avec lui, tu vas pouvoir lui dire, bah, attends, ça marche pas, en fait, ce que tu m'as dit. Il dit, ah oui, effectivement, je me suis trompé sur ça. Ou alors, il va te dire, bah, attends, essaye ça. Peut-être que ça marchera mieux. Ou, bon, voilà. Ils ont, bon, il y a plein de tests qui sont faits. Aujourd'hui, c'est mis à rude épreuve, donc ça n'est pas parfait. En tout cas, pour revenir à la question initiale, si tu veux, ça va encore une fois rendre plus facile pas mal de tâches à plein de gens. Ça va détériorer ou détruire certains métiers ou certaines tâches, peut-être plus spécifiquement. Moi, je suis pas inquiet par rapport à mon métier parce que moi, je fais du sur-mesure déjà.
C'est ça. C'est ta valeur ajoutée, c'est quoi ?
Ben, moi, je fais du sur-mesure, c'est-à-dire que je suis plus. Alors, je l'ai fait à un moment donné. Bien sûr, tout le monde commence comme ça sur Internet. Tu bidouilles un peu, t'apprends. Tu fais des assemblages, il y a plein de systèmes où tu n'as pas besoin de coder, tu fais du Lego et tout. Moi, je suis arrivé à une étape où je fais vraiment du sur-mesure. Et notamment là, tu vois, on en parlait du projet Convivencia et de pourquoi je suis là aujourd'hui. Pouvoir faire un site qui est accessible au plus de situations de handicap possible, tu vas pas pouvoir être sûr de ton coup si tu fais que de l'imbricage d'éléments sans coder. Là, il a fallu qu'on code de A à Z en respectant... alors, peut-être que ça viendra. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On l'a vu d'ailleurs, on s'est confronté au service de blog Arte qui est utilisé par Convivencia. Ben, on se rend compte qu'à un moment donné, ce n'est plus très accessible, cette partie-là de notre site. Donc en fait, c'est une intégration externe sur notre site, mais du coup, ça nous permet pas de remplir nos objectifs qu'on avait d'accessibilité.
Au-delà des normes, c'est important aussi d'avoir un échange avec les utilisateurs pour toi ?
Oui, complètement, parce qu'il y a la théorie, il y a la pratique. Quoi. Respecter les normes, parce que tu veux, par exemple, pour les couleurs, moi, j'ai mis dans une moulinette qui m'a dit, c'est bon, tes contrastes, ils sont bons. C'est-à-dire qu'il a comparé ma couleur d'écriture sur ma couleur de fond, il m'a dit, ça, c'est bon, ce sera lisible. Mais le fait est qu'après, on discute avec quelques personnes ici, il y en a, ils disent, ouais, c'est bon, et il y en a, ils disent, bah non, moi, j'arrive pas bien à lire. Donc, probablement qu'on va faire évoluer ces couleurs-là, à dire, bah, c'est limite, du coup, on va faire un peu une croix sur certains aspects graphiques, pour que ce soit lisible. Parce qu'on arrivera à trouver un truc toujours chouette, mais il ne faut pas que les couleurs se mélangent trop. Quoi.
Et éventuellement, comme les non-voyants.
Oui, non-voyants ou juste même malvoyants, c'est plutôt là, parce que les non-voyants, ouais. Lui, tu vois, Christian, il a un outil de liseuse, donc en fait, il va se servir du braille,
oui.
Il ne voit pas du tout, il vit pas le site de la même manière que les gens qui se servent de leurs yeux.
Ben heureusement qu'aujourd'hui, il y a ce système aujourd'hui pour lui. Et,
oui, complètement.
Et bon...
Ah oui, mais sinon,
et qui arrive de l'aider, quoi.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc oui, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Aujourd'hui, demain, et quand je dis demain, c'est dans pas longtemps, on parle en mois, hein, ou en quelques années. Ce qui peut, d'ailleurs, des gens qui disent un peu ça fait flipper. Concrètement, quand on voit une intelligence artificielle conversationnelle, comment elle te répond de manière, dans un français hyper intelligible, de manière hyper polie, et puis de manière relativement humaine, hein. Il s'excuse quand il se trompe et tout ça. Et quand tu vois aussi les synthèses vocales, ce qu'elles sont capables de faire, dans quelques mois, quelques années, le coup de fil de l'opérateur téléphonique qui veut te vendre un abonnement, à mon avis, ce ne sera plus une personne à l'étranger. Hein. Ce sera un robot et ce sera difficile de s'en rendre compte.
Et pour finir sur ce thème, est-ce que malgré tout, il n'y a pas une valeur ajoutée pour des professionnels comme toi au niveau justement de la compréhension des besoins du client, au niveau de la créativité, que l'intelligence artificielle est quand même loin d'égaler encore quand même?
Alors, elle a une forme de créativité, mais qui est quand même basée sur tout ce qui existe. Alors, de toute façon, si on réfléchit bien à la créativité, ma créativité, elle est basée sur tout ce que j'ai pu voir, entendre, consommer en termes de culture. J'invente rien de zéro. Si j'avais jamais rien vu, ben, je pourrais pas imaginer une image, c'est sûr. Donc du coup, elle le fait pas pareil que nous. Et puis, ben, par exemple, aujourd'hui, une main, c'est pas ce que c'est. Hein. Elle fait une main avec 8 doigts, elle se rend pas compte qu'il y a un bug, quoi. Donc il y a des humains qui vont être obligés d'intervenir pour corriger un biais de l'intelligence artificielle. Mais comme je te dis, ça peut être une aide. J'en parlais avec une amie il y a 2 jours. Je lui disais, tu vois, en fait, je me rends compte que ça me fait gagner un peu de temps par-ci, par-là. Peut-être que ça va me permettre soit de moins travailler, probablement, si j'avais eu besoin à un moment donné d'embaucher quelqu'un, bah, de ne pas le faire. Parce qu'en fait, je vais pouvoir travailler plus vite. Donc, tu vois,
et plus longtemps.
Bah, plus vite. Alors plus longtemps, je ne sais pas. Oui, on fait la blague. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis un petit artisan tout seul avec plein de compétences, du coup j'ai pas besoin d'embaucher, et si je devais embaucher quelqu'un à 35 heures d'un coup, ce serait financièrement pas possible pour moi.
Oui.
Donc d'avoir un assistant ordinateur qui est capable de me faire gagner 2-3 heures par jour, c'est pas le cas aujourd'hui, mais j'imagine que ça va être le cas assez rapidement, ça va me permettre soit de faire le choix de moins travailler, soit ça va me permettre de passer un petit niveau supérieur et de faire comme si j'avais embauché quelqu'un un petit peu, mais ça va pas forcément intéresser quelqu'un de dire je t'embauche 2 heures par jour, quoi, ou je t'embauche 6 heures par semaine. Oui. C'est pas forcément je peux pas forcément créer un poste.
Moi, je te trouve quelqu'un pour 6 heures par semaine.
Après, est-ce que ça va être quelqu'un qui me correspond ? Enfin, tu vois, il y a toujours cette problématique qui peut être...
Moi, je te trouve quelqu'un, j'en connais plein de gens qui veulent travailler que 6 heures par semaine.
Ah ouais ?
Ouais. Eh bien oui.
Après,
c'est bien ça.
L'IA, ça ne va pas coûter très cher, hein. Ça va coûter 10 ou 20 balles par mois, hein. Pour, à mon niveau, une grosse boîte. Après, ce qui est inquiétant, c'est sûr, c'est que moi, ça va me permettre peut-être d'être un peu plus productif et de, comme je te dis, de ne pas recruter de toute façon quelqu'un que je n'aurais peut-être pas pu recruter, ne serait-ce que financièrement. Par contre, une grosse boîte, elle, ça va être l'inverse, ça va lui permettre, il y en a déjà qui ont commencé, ils vont virer les gens par 100 ou par 200 parce qu'ils vont dire, bah, en fait, on va prendre un gars, on va lui filer 2 ordis, il va faire tourner des IA et c'est tout ce qu'il aura à faire.
Ça, cet aspect est plus inquiétant déjà.
Eh bien, de toute façon, il est déjà en cours, hein. Il y a CNET qui a déjà licencié 6 ou 12 journalistes, donc c'est un journal en ligne. Ben oui, effectivement, un journaliste tout seul avec une IA, je pense qu'à l'heure, il peut rédiger beaucoup plus d'articles que 12 journalistes tout seul. Et ça te coûte 12 fois moins cher.
Donc,
oui, c'est vraiment sur une approche purement marchande. Voilà, il va y avoir pas mal de métiers dans le service, dans la création qui vont sauter. Hein.
Donc, pour toi, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas du tout rentable.
Alors, rentable, ça dépend pour qui.
Si tu pars dans ce contexte-là de...
Ça va créer, alors ça va détruire des emplois, mais comme toute techno, ça va créer d'autres emplois. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin de gens qui peuvent se servir des IA.
Oui, d'accord.
Mais le truc est là, c'est qu'il y a quand même un ratio. C'est, vu que c'est puissant, de toute façon, à la fin, pour le même résultat, il y aura besoin de moins de gens.
Merci en tout cas à Raphaël pour cet échange qui a été très intéressant. Merci également à Thierry qui m'a assisté pour la première fois. Et bien sûr à Sébastien. Pour conclure, Raphaël, peux-tu juste nous dire quelles sont tes impressions suite à ta visite à Café & Co, comme on demande à chaque invité.
D'accord. Je savais que ce café allait ouvrir parce qu'on avait travaillé avec Sébastien sur la plaquette qui est aujourd'hui la plaquette de présentation du lieu et qui avant c'était une autre version. C'était la plaquette pour faire la promotion du projet. C'était pour présenter le projet dans l'optique de trouver le lieu. Donc c'est vrai que moi j'avais entendu parler du projet, le lieu n'existait pas. Donc du coup j'ai découvert le secteur et puis j'ai découvert le lieu. Donc moi je trouve ce lieu très chouette parce que déjà il est hyper lumineux. Il est au rez-de-chaussée, donc en termes d'accessibilité c'est top. Et puis après c'est hyper, c'est chaleureux, c'est très ouvert.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup Raphaël.
On te laisse lancer le jingle.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence. Différence.
Différence. Radio & Co.